Chapitre 3. Le chef-d'œuvre de Gilliatt vient au secours du chef-d'œuvre de Lethierry. À quelque temps de là, un pêcheur qui eût été assez fou pour flâner en cette saison dans ces parages eût été payé de sa hardiesse par la vision entre les Douvres de quelque chose de singulier. Voici ce qu'il eût aperçu. 4 madriers robustes, espacés également, allant d'une Douvre à l'autre, et comme forcé entre les rochers, ce qui est la meilleure des solidités. Du côté de la petite Douvre, leur extrémité posait et se contrebutait sur les reliefs du roc. Du côté de la grande Douvre, ses extrémités avaient dû être violemment enfoncées dans l'escarpement à coups de marteau par quelque puissant ouvrier debout sur la poutre même qui l'enfonçait. Ces madriers étaient un peu plus longs que l'entre-deux n'était large, de là la ténacité de leur emboîtement, de là aussi leur ajustement en plan incliné. Ils touchaient la grande Douvre à angle aigu et la petite Douvre à angle obtus. Ils étaient faiblement déclives, mais inégalement, ce qui était un défaut. À ce défaut près, on les eût dit disposés pour recevoir le tablier d'un pont. À ces 4 madriers étaient attachés 4 palans, garnis chacun de leur itague et de leur garant, et ayant cela de hardi et d'étrange, que la moufle à 2 rouets était à une extrémité du madrier et la poulie simple à l'extrémité opposée. Cet écart, trop grand pour n'être pas périlleux, était probablement exigé par les nécessités de l'opération à accomplir. Les moufles étaient fortes et les poulies solides. À ces palans se rattachaient des câbles, qui de loin paraissaient des fils. Et, au-dessus de cet appareil aérien de moufles et de charpentes, la massive épave, la Durande, semblait suspendue à ces fils. Suspendue, elle ne l'était pas encore. Perpendiculairement sous les madriers, 8 ouvertures étaient pratiquées dans le pont, 4 à bâbord et 4 à tribord de la machine, et 8 autres sous celle-là, dans la carène. Les câbles descendant verticalement des 4 moufles entraient dans le pont, puis sortaient de la carène par les ouvertures de tribord, passaient sous la quille et sous la machine, rentraient dans le navire par les ouvertures de bâbord et, remontant, traversant de nouveau le pont, revenaient s'enrouler aux 4 poulies des madriers où une sorte de palanguin les saisissait et en faisait un trousseau relié à un câble unique, et pouvant être dirigé par un seul bras. Un crochet et une moque, par le trou de laquelle passait et se dévidait le câble unique, complétaient l'appareil et, au besoin, l'enrayaient. Cette combinaison contraignait les 4 palans à travailler ensemble et, véritable frein des forces pendantes, gouvernail de dynamique, sous la main du pilote de l'opération, maintenait la manœuvre en équilibre. L'ajustement très ingénieux de ce palanguin avait quelques-unes des qualités simplifiantes de la poulie Weston d'aujourd'hui et de l'antique polispaston de Vitruve. Gilliatt avait trouvé cela, bien qu'il ne connût ni Vitruve, qui n'existait plus, ni Weston, qui n'existait pas encore. La longueur des câbles variait selon l'inégale déclivité des madriers et corrigeait un peu cette inégalité. Les cordes étaient dangereuses, le funimbulant pouvait casser. Il eût mieux valu des chaînes, mais des chaînes eussent mal roulé sur les palans. Tout cela, plein de fautes, mais fait par un seul homme, était surprenant. Du reste, nous abrégeons l'explication. On comprendra que nous omettions beaucoup de détails qui rendraient la chose claire aux gens du métier et obscure aux autres. Le haut de la cheminée de la machine passait entre les 2 madriers du milieu. Gilliatt, sans s'en douter, plagiaire inconscient de l'inconnu, avait refait, à 3 siècles de distance, le mécanisme du charpentier de Salbris, mécanisme rudimentaire et incorrect, redoutable à qui oserait le manœuvrer. Disons ici que les fautes même les plus grossières n'empêchent point un mécanisme de fonctionner, tant bien que mal. Cela boite, mais cela marche. L'obélisque de la place de Saint-Pierre de Rome a été dressé contre toutes les règles de la statique. Le carrosse du tsar Pierre était construit de telle sorte qu'il semblait devoir verser à chaque pas. Il roulait pourtant. Que de difformités dans la machine de Marly! Tout y était en porte-à-faux. Elle n'en donnait pas moins à boire à Louis XIV. Quoi qu'il en fût, Gilliatt avait confiance. Il avait même empiété sur le succès au point de fixer dans le bord de la panse, le jour où il y était allé, deux paires d'anneaux de fer en regard, des deux côtés de la barque, aux mêmes espacements que les quatre anneaux de la Durande auxquels se rattachaient les quatre chaînes de la cheminée. Gilliatt avait évidemment un plan très complet et très arrêté. Ayant contre lui toutes les chances, il voulait mettre toutes les précautions de son côté. Il faisait des choses qui semblaient inutiles, signe d'une préméditation attentive. Sa manière de procéder eût dérouté. Nous avons déjà fait cette remarque, un observateur même connaisseur. Un témoin de ses travaux qu'il eût vu, par exemple, avec des efforts inouïs et au péril de se rompre le cou, enfoncer à coups de marteau 8 ou 10 des grands clous qu'il avait forgés dans le soubassement des deux douvres à l'entrée du défilé de l'écueil, eût compris difficilement le pourquoi de ces clous, et se fût probablement demandé à quoi bon toute cette peine. S'il eût vu ensuite Gilliatt mesurer le morceau de la muraille de l'avant qui était, on s'en souvient, resté adhérent à l'épave, puis attaché au fort grelin, un rebord supérieur de cette pièce, couper à coups de hache les charpentes disloquées qui la retenaient, la traîner hors du défilé, à l'aide de la marée descendante, poussant le bas pendant que Gilliatt tirait le haut, enfin, rattacher à grand-peine avec le grelin cette pesante plaque de planches et de poutres, plus large que l'entrée même du défilé, au clou enfoncé dans la base de la petite douvre, l'observateur eût peut-être moins compris encore, et se fût dit que, si Gilliatt voulait, pour l'aisance de ses manœuvres, dégager la ruelle des douvres de cet encombrement, il n'avait qu'à le laisser tomber dans la marée qui l'eût emporté à volo. Gilliatt, probablement, avait ses raisons. Gilliatt, pour fixer les clous dans le soubassement des douvres, tirait parti de toutes les fentes du granit, les élargissait au besoin, et y enfonçait d'abord des coins de bois, dans lesquels il enracinait ensuite les clous de fer. Il ébaucha la même préparation dans les deux roches qui se dressaient à l'autre extrémité du détroit de l'écueil, du côté de l'est. Il en garnit de chevilles de bois toutes les lézardes, comme s'il voulait tenir ses lézardes prêtes à recevoir, elles aussi, des crampons. Mais cela parut être un simple encas, car il n'y enfonça point de clous. On comprend que, par prudence dans sa pénurie, il ne pouvait dépenser ses matériaux qu'au fur et à mesure des besoins et au moment où la nécessité se déclarait. C'était une complication ajoutée à tant d'autres difficultés. Un premier travail achevé, un deuxième surgissait. Gilliatt passait sans hésiter de l'un à l'autre et faisait résolument cette enjambée de géants.